Après cette année 2020, rythmée à la crise sanitaire, après ce début d'année 2021 qui s'annonce haut en couleur, on a du mal à s'imaginer un futur dans lequel on aura envie de vivre. On a du mal à imaginer quelque chose de chatoyant. On se demande quand est-ce que ces crises vont s'arrêter. Et justement, aujourd'hui, je reçois Daniel Kaplan, qui est entre autres le fondateur de l'Université de la Pluralité, qui est un projet de réseau mondial consacré aux imaginaires du futur. Il a été avant ça le délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération, et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le numérique de manière générale, et donc désormais il s'intéresse aux imaginaires. Et avec Daniel, on parle de beaucoup de choses, c'est pour ça que la conversation est un peu longue. On parle d'abord des crises que l'on traverse, des multicrises que l'on va traverser, mais en réalité, pour comprendre que ce ne sont pas simplement des crises. Et puis, évidemment, comment envisager de les traverser, comment envisager notre vie aujourd'hui, comment envisager un futur dans lequel on se projette, et voir si c'est possible, hein, tous, toutes ensemble. C'est une conversation qui est longue et évidemment hyper intéressante, enfin je trouve en tout cas. C'est pour ça que j'avais du mal à m'arrêter. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
On va parler aujourd'hui de crise systémique. On va parler de la manière dont on est en train d'évoluer, mais on va aussi parler du futur. J'aimerais comprendre pour vous, donc là on est tout début 2021, comment vous avez vécu cette année 2020 et cette crise sanitaire?
D'abord, tout en travaillant sur le futur, je l'ai vécu comme tout le monde, hein, donc comme malgré tout un événement non anticipé, inattendu, y compris dans sa longueur, c'est-à-dire que l'idée du cloisonnement du tiers de l'humanité, c'était déjà une idée surprenante, aussi soudaine, l'idée que un an plus tard, ça continue vraisemblablement. On est une autre, en tout cas. Après, pour être honnête, c'est une année. Ça s'est avéré être une bonne année pour le travail que je faisais, pour le développement du réseau Université de la Pluralité, alors qu'il est tellement petit qu'il pouvait difficilement souffrir d'une crise, puisqu'il n'y avait pas d'acquis. Mais en fait, on s'est. Tout en ayant, comme tout le monde, marre des visioconférences, on s'est quand même amusé à inventer toutes sortes de formats. On a fait des ateliers de collecte de morceaux d'imaginaire, on a fait des ateliers d'écriture passionnants avec des écrivains, des écrivaines de science-fiction et des gens qui n'en avaient pas du tout l'expérience dans le cadre de projets. On a inventé une formule de publication faite de briquet de broc avec des contributions venues du monde entier. Donc, bon, c'est pas pour ça qu'on a envie que ça dure. Et puis après, c'est aussi une année dont j'avais lu des bouts dans bon, pas mal de romans de science-fiction. J'en ai plus forcément les titres ici. Et donc, quelque part, c'est un peu comme si. Des choses se traduisaient dans des morceaux de fiction se traduisaient dans la réalité. Ça m'intéresse en fait pas du tout de savoir si la fiction a prévu quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que peut-être, du coup, ça a aidé à être un tout petit peu plus armé pour se dire, bon, ben, voilà, c'est un élément de contexte. Travaillons dans ce contexte-là.
Il y a Utopia, entre autres, qui a été porté au nu, en tout cas aux États-Unis, donc un livre de science-fiction qui a été écrit il y a une trentaine d'années, je crois, de mémoire, et qui décrit globalement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui y sont retournés cette année, enfin l'année dernière, du coup, à cette lecture. C'est vrai que la science-fiction, c'est toujours intéressant parce que c'est des récits. Pour vous, moi j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, qu'on va vivre pas mal de crises parallèles, en tout cas que cette crise sanitaire va générer une crise économique, une crise sociale, qu'on va avoir une crise politique l'année prochaine, On parle et on voit la montée du Bitcoin, entre autres, sans doute une crise financière. Et évidemment, par-dessus tout ça, une crise écologique. Et puis aussi une crise paradigmatique, donc une crise des croyances, parce que justement, les gens sont en manque de récits, en particulier dans un monde où on parle d'écologie, on parle beaucoup d'écologie punitive, et les gens ne savent plus très bien justement à quel récit se vouer, si on peut dire ça comme ça. Comment vous voyez les choses sur les années à venir, décennies à venir sans doute ?
Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, donc il faudra peut-être qu'on l'épelle petit à petit. Pour revenir d'abord à cette question de crise, ce qu'on voit un peu se travailler un peu partout, c'est l'idée que ça n'est pas une crise au sens, en tout cas, où il y aurait une situation normale, sans crise, à laquelle revenir. C'est pas pour ça que c'est seulement une conjonction de crise, c'est peut-être autre chose. Ce que peut-être Timothy Norton appellerait un méta-objet, c'est-à-dire un objet qui est tellement gros que d'essayer de l'appréhender avec les notions... un peu précise, cette idée de crise, même quand on dit non, mais la crise, c'est aussi une métamorphose, tout ça, pour dédramatiser. Le changement climatique, c'est pas une crise, c'est une transformation des conditions mêmes de la vie. Ça s'appelle pas une crise. C'est autre chose. Une crise financière, ça peut s'appeler une crise. Et donc, ce qu'on voit pas mal émerger, c'est effectivement l'idée que, à horizon visible, il n'y a vraisemblablement pas de période sans crise, de période de non-crise. De non-crise au sens, en tout cas, où on est aux prises avec des phénomènes qui ne sont pas tous anticipables et qui tous cassent les mécanismes de la vie économique ou sociale normale, enfin considérée auparavant comme normale. Donc, qu'on ne sortira pas de la crise, qu'il faut s'habituer à être dans une période de bouleversement, de questionnement, d'incertitude structurelle. Il y a même un institut des temps post-normaux qui s'est créé autour de cette idée-là qu'il y a justement plus de normalité vers laquelle se tourner, et qu'on est dans une période qui, comme aucune période n'est éternelle, mais qui est au moins durablement complexe, chaotique, contradictoire, c'est les différents C autour desquels ils travaillent, et qu'il faut apprendre à travailler dans cette réalité, que c'est pas du tout le même, qu'on fait pas ni des affaires, ni des politiques publiques de la même manière dans un monde de ce type-là dans un monde plus déterministe dans lequel, voilà, quand il y a une crise, c'est une période, elle a un début et il y a une sortie du tunnel, elle est, même si la sortie est plus longue que prévu. La deuxième chose qui est effectivement et sur lesquels, par exemple, les assureurs travaillent, c'est l'idée que cette période-là, en plus, est marquée par le fait que, du coup, une crise n'arrive jamais seule, ou rarement seule, soit parce qu'elles sont toutes connectées. Si le changement climatique s'accélère et ses conséquences se font ressentir de plus en plus vivement, évidemment, ça a des conséquences sur la vie économique, donc sur les finances, mais ça a aussi des conséquences sur l'esprit public. Et moi, pour moi, d'une certaine manière, beaucoup de... des crispations aujourd'hui identitaires ou sociales sont aussi liées au fait que petit à petit la question climatique commence à mordre pour de vrai et que du coup il commence à y avoir des tentatives politiques pour essayer de dire bon bah, il faudrait quand même qu'on bouge un peu plus et que du coup ça déstabilise beaucoup plus encore à la fois les situations acquises, mais aussi la manière dont les gens pouvaient se percevoir ou percevoir leurs perspectives. Ça peut créer clairement aussi des inégalités. S'il y a des gens pour lesquels c'est plus facile de concevoir des changements que pour d'autres, y compris parce qu'il y a plus de latitude, il y a plus de marge. Et donc, une bonne partie des tensions politiques d'aujourd'hui sont en fait déjà des tensions liées au changement climatique. Mais on n'a rien vu. Et que ça va être très difficile. Donc, d'une part, elles sont connectées, mais d'autre part, si on est dans un monde de crise permanente, c'est aussi parce qu'il va, voilà, il va y en avoir. Et en particulier, il y a cette idée dont m'avait parlé la responsable d'une prospective des risques d'une grande société d'assurance, qui est de dire qu'est-ce qu'on fait si, dans la situation où on a plusieurs grandes crises, plus ou moins longues, plus ou moins aléatoires, qui nous invitent à faire des choses contradictoires. On a une crise sanitaire, il ne faut pas se rencontrer, et on a une inondation, il faut tous se retrousser les manches et aller creuser ou mettre des sacs de sable, etc. Je caricature. Et donc, où, petit à petit, il faut faire ça et son contraire. Comment on fait ça? Et puis, plus profondément, est-ce qu'on est... C'était le patron d'AXA qui a posé la question à un moment, mais ils se posent tous la question... Est-ce qu'à un certain moment de transformation, on est encore dans un monde assurable, c'est-à-dire dans lequel on peut mettre un prix à un risque qui soit pas égal au prix du risque, et qu'on peut mutualiser un peu ces risques-là. Si tout le monde vit le même risque et que ce risque est à peu près certain, on ne peut pas assurer quoi que ce soit. Voilà, en tout cas, on est dans un monde dans lequel voilà, l'idée même de risque ou d'incertitude... est devenue très différente. C'est un peu ça, cette idée de multicrise qu'on avait essayé d'exprimer dans une conf à Sciences Po en septembre 2020.
Et alors, la question sans doute que les personnes qui écoutent se posent naturellement, enfin moi je me la pose en tout cas, c'est comment je fais alors, est-ce que c'est pour rester positif ou au moins pour traverser ce moment? Parce qu'en fait, quand on entend ça en disant bah, on va être en crise permanente, et puis il va falloir s'habituer, il va falloir être suffisamment souple pour improviser au fur et à mesure, puisqu'on ne sait pas précisément dans quel sens ça va venir ou pas venir, ou quand. Comment je fais, en tant qu'individu qui n'a pas la main finalement vraiment sur les choses, pour traverser cette période?
Il y a plein de morceaux de réponses, il n'y en a aucune qui soit parfaite. La réponse un peu facile, moi je pense toujours à... alors je ne les ai plus en tête exactement, mais à ces phrases de René Char, qui dit à un moment, quand il écrit depuis le Maquis, qui dit à plusieurs moments même qu'en fait il vit une des meilleures périodes de sa vie. Et il vit dans le Maquis, il risque sa vie, ses amis meurent. Donc c'est un moment dur, mais c'est aussi un moment dans lequel, vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas la main. Et c'est peut-être l'une des clés, pour moi en tout cas, la raison pour laquelle je travaille sur les imaginaires, c'est que c'est peut-être là l'une des clés. C'est que on n'a pas la main au sens, non pas seulement au sens où on ne peut pas anticiper et savoir ce qu'il va se passer, parce que après tout, c'est quand même une expérience courante de la vie, ne pas savoir ce qu'il va se passer. Alors, on est à nouveau, on est dans une plus ou moins bonne position pour le vivre, et on a eu des systèmes qui peut-être vont être déstabilisés, qui ont fait aussi qu'on pouvait plus ou moins facilement accueillir de l'incertitude. Et évidemment, ces systèmes ne sont pas accessibles à tout le monde dans le monde entier, mais... En revanche, ce qu'on a largement fait, c'est qu'on a externalisé les capacités d'action. Voilà. C'est dans l'État, c'est dans les organismes sociaux, c'est dans les entreprises, c'est dans la technologie. Et donc, finalement, devant cette incertitude, moi, personnellement, et même devant mon insatisfaction vis-à-vis de l'état du monde, etc., bah, moi, personnellement, je peux avoir le sentiment que je ne peux pas faire grand-chose, de toute façon. Et que si je fais des choses vis-à-vis de ma consommation, de mes modes de vie, de toute façon, ça ne fait pas grand-chose, ça ne change rien. C'est une goutte d'eau, et puis c'est très difficile parce que le monde fonctionne comme il fonctionne, et donc si je n'ai pas de voiture et que je suis à la campagne, bah, il faut que je mange, etc. Donc, la clé, c'est justement pas que les choses soient incertaines, parce qu'en fait, elles l'ont toujours été. Elles le sont peut-être un peu plus, mais elles le sont un peu plus. Et nous, on est moins résilients, au sens dans cette capacité, où on est plus fragile au sens de ce travail de... comment il s'appelle, Nassim ça me reviendra, sur l'auteur du Signe Noir, et dont le bouquin suivant s'appelle Antifragile, et qui disait comment, en faisant l'hypothèse que justement, on va vers un monde, on est dans un monde dans lequel il y a plus d'incertitudes, il y a plus de chocs, il y a plus de changements, et qu'on peut, on ne sait pas l'anticiper. Comment on est dans une situation, non pas seulement de vivre ça le moins mal possible, il y a la résilience dans laquelle on se reconstruit comme avant. Mais ça, ce n'est pas une bonne ressource, puisque si on se reconstruit comme avant, on reste... Mais il y a la résilience dans le sens où on peut prendre ces événements et vivre avec, et même, comme René Char, quelque part, les vivre aussi comme une aventure, comme quelque chose dans le... Donc, je pense que c'est vraiment une des clés. Et pour moi, la clé, c'est justement que les personnes puissent non pas seulement adapter leur comportement, etc., mais commencer à retrouver le sentiment qu'ils peuvent être des acteurs de la construction de leur futur à eux et même du futur de trucs qui tournent autour d'eux. Et c'est actuellement, pour moi, ce qui manque le plus.
Mais alors, justement, quand on parle d'imaginaire, des imaginaires, on va expliquer pourquoi il y a des pluriels. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vois, vous venez du digital, enfin, vous connaissez super bien l'Internet, le numérique et toute cette industrie. Je vois des Elon Musk qui vous parlent de Hyperloop, donc un train qui va à X milliers de kilomètres. Je vois des startups qui continuent à créer des produits dont pas grand monde a besoin, avec bien sûr toujours ce petit penchant, ce petit pendant écologique où on va faire de la compensation XY. Évidemment, c'est la période, mais enfin, on est quand même loin. Et en fait, donc je vois ce monde-là, donc qui trace sa route, la 5G, les écrans toujours plus grands, les téléphones toujours avec toujours plus de fonctionnalités, etc., etc. Donc ce chemin-là qui est très clair pour tout le monde, je crois. Et puis de l'autre côté, on voit un chemin de sobriété très forte. C'est très étonnant. Ce que je voulais comprendre, c'est vous, comment vous voyez cette plutôt ce chemin d'innovation technologique permanent dans la réalité du monde de 2021.
En fait, vous venez de décrire ce que moi j'appelle les deux no futures contemporains, qui sont d'un côté l'effondrement, l'idée d'effondrement, qui n'est pas forcément une idée absurde, mais l'autre non plus en réalité, mais qui est une idée... derrière laquelle c'est très difficile de se projeter vers un futur et d'essayer de construire. Et en fait, l'idée d'une croissance technologique permanente, c'est aussi une idée qui mène assez logiquement à ce qui s'appelle, de manière intéressante d'ailleurs, la singularité technologique. La singularité, c'est décrit comme le point au-delà duquel, alors il y a plusieurs manières de le dire, mais enfin, pour le dire comme ça, au-delà duquel la capacité de raisonnement des machines dépasse non seulement la nôtre, mais dépasse notre capacité à la comprendre, et en plus que la croissance de cette capacité est tellement rapide que de toute façon, il n'y a plus vraiment de moyen pour nous de contrôler nos créations machinique. Et donc, on est dépassé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une singularité en maths, en physique, c'est en fait un point au-delà duquel les lois qu'on connaît dans notre univers ne fonctionnent plus. Et on ne sait plus dire ce qui se passe de l'autre côté. Donc, pour moi, l'effondrement est une singularité comme la singularité technologique. Et de l'autre côté, ce n'est pas nos manières habituelles de réfléchir qui peuvent s'exprimer. Si on a envie de passer de l'autre côté, pour se dire, ok, bon, d'accord, ça va se passer ça, mais qu'est-ce qui peut se passer après ? Dans l'hypothèse où on n'est pas tous morts, ou même peut-être, on n'est peut-être pas morts du tout, il se passe quoi après ? Et comment est-ce que justement, je peux faire autre chose que subir l'un de ces deux avenirs-là et retrouver une capacité de projection, une capacité donc de conception, une capacité dans laquelle je peux et on peut se sentir acteur. Et il n'y a que l'imaginaire pour le faire. Parce que justement, les lois qu'on connaît aujourd'hui, économiques, juridiques, physiques, etc., ne marchent plus de l'autre côté. On est dans un autre paradigme, pour de vrai, au sens épistémologique du terme. Le premier saut qu'on peut faire, il est imaginaire. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer à travailler là-dessus, en l'ayant même vécu, parce que l'un des derniers projets que j'ai mené dans la FING, que je dirigeais à ce moment-là, donc qui travaillait effectivement sur le numérique, c'était un projet que j'appelais Transition Carré, qui travaillait sur le lien, ou la difficulté du lien, en fait, entre la transition numérique et la transition écologique. Et où on s'est aperçu qu'on a eu besoin de 18 mois pour faire vraiment qu'existe un échange entre des gens bien intentionnés des deux côtés, qui venaient du numérique, et des gens qui venaient de l'écologie, qui pouvaient utiliser les mêmes mots pour dire des choses complètement différentes, qui ne se comprenaient pas, qui n'arrivaient pas à comprendre les motivations, le sens de ce que disait l'autre, et donc qui effectivement se disaient « toi t'es un technophobe, toi t'es un technosolutionniste ». Et c'était des manières pas très intéressantes. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est une question d'imaginaire, là au sens, pas seulement d'imagination, de raconter des histoires, du système de création de sens. En anthropologie, l'imaginaire, c'est le filtre par lequel on interprète tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit. C'est proche de moi, c'est loin de moi, c'est juste, c'est pas juste, etc. Et pour le dire de manière très simplificatrice, je l'ai proposé de le dire, ça se situe au terme des limites. Quand vous êtes un technologue, une limite, c'est un truc à péter. Et donc, si la limite, c'est le changement climatique, la consommation de ressources, bah ok, on va trouver des technologies qui vont faire qu'on va consommer moins de ressources. Et voilà. Quand vous êtes venez de l'écologie, une limite, c'est quelque chose en deçà de quoi il faut rester ou se ramener. Donc forcément, quand vous êtes dans cette rencontre-là, c'est un petit peu... c'est compliqué, jusqu'au moment où vous arrivez à l'expliciter et à vous dire, voilà, c'est ça que j'ai comme récit. Et à ce moment-là, le dialogue devient possible parce que cette manière de voir le monde reste éventuellement différente. C'est pas grave qu'elle soit différente. Ce qui est grave, c'est qu'elle ne soit pas consciente, même chez ceux qui la portent, au point que du coup, elle interdit l'échange.
Mais alors, du coup, naturellement, ce qu'on a envie, c'est de se projeter dans un avenir. Vous l'avez dit, on fonctionne beaucoup à l'imaginaire en tant qu'animaux sociaux. Le grand imaginaire sur lequel on s'est appuyé pendant des millénaires, c'est la religion. En tout cas, il y en a plusieurs, mais néanmoins, ça a été ça au moins pour la religion catholique au moins 2000 ans. Dans quel imaginaire, parce que la religion, elle s'est un peu tarée. Alors, il y a un retour, hein, bien sûr, du religieux, mais dans quel imaginaire on peut se projeter? Parce que je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que pour mieux vivre cette période de transition, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, je pense, si on ne parle pas de crise, en tout cas. J'ai besoin d'un imaginaire, au moins de plusieurs imaginaires dans lesquels me projeter.
Nous, on pense que c'est plusieurs, mais du coup, c'est plus compliqué. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, bon, d'abord, oui, la religion, mais d'abord, une religion n'est pas forcément la même qu'une autre. Des formes orientales de religion produisent des choses assez différentes. Ensuite, il y a des continuités plus grandes. Hein. Par exemple, on dit que l'imaginaire, c'est pas faux, hein, que l'imaginaire occidental aussi pendant un assez long moment était celui du progrès. Et on va attribuer la faute à Descartes qui a parlé de l'homme maître et possesseur de la nature. C'est au verset 28 de la Genèse, dans lequel Dieu, ayant créé l'homme et la femme, leur donne la terre et les animaux, etc., pour qu'ils les soumettent. Les nomme maître et possesseur de la nature. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que déjà, ça nous dit en effet que l'imaginaire, il est fondateur, et que l'imaginaire, c'est pas juste un truc comme ça dans les terres. L'imaginaire produit un cadre d'action. Et donc, deux paragraphes de la Genèse expriment, produisent pas, c'est pas comme si c'était pas avant, puisqu'il a bien fallu que quelqu'un l'écrive, mais expriment et légitiment une posture des humains occidentaux vis-à-vis du reste du vivant, qui est largement la posture face à laquelle on a aujourd'hui un problème majeur, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, on est aussi dépendant d'eux que de nous, puisqu'on les a rendus largement dépendants de nous, et que donc, si on ne change pas ça, en fait, on est en train d'endommager les conditions de survie de tout le monde, y compris les nôtres. Sauf dans une vision qui est une espèce de pointe avancée de la vision moderne, qui est la vision de la singularité technologique, des technologies exponentielles qui résolvent tous les problèmes, qui est la vision transhumaniste, et je ne le présente pas du tout d'une manière morale, qui est une vision dans laquelle on arrive par la technique à mettre en coupe réglée l'ensemble des interactions et des micro-interactions qui font que le monde d'aujourd'hui est un monde équilibré, et dont on se rend compte à quel point, tous les jours, voilà, l'interaction des champignons avec les arbres, l'interaction des bactéries qu'on a dans l'estomac avec notre cerveau, l'interaction de, etc. Ok, on a tout reproduit par la technologie, ce qui est évidemment un projet qui ne tient pas, qui, voilà, on est obligé, si on veut aller au bout de ce récit-là, de le produire. Donc, on n'a jamais eu un seul récit, et les moments où on a pu avoir l'impression qu'on allait vers un seul récit ne sont pas les meilleurs moments de l'histoire non plus. Ça a été quand même bon, voilà, les grands moments de la domination des grandes religions, la religion... Enfin, les religions chrétiennes ont été aussi les religions des colonisateurs, et l'une des façons pour un colonisateur de se sentir bien vis-à-vis de ce qu'il faisait subir aux colonisés, c'était de dire qu'il les civilisait et qu'il les christianisait quand même. Donc, faut pas qu'on oublie ça, mais ça a été aussi évidemment les avenirs radieux communistes ou nationaux-socialistes, et peut-être l'avenir radieux du progrès. Donc, on sent bien que le grand imaginaire qui est juste à consommer, il est là, t'as qu'à y adhérer, c'est bon, tu seras avec tous les autres, ce qui était chouette, hein, il y avait un côté comme ça, être communiste en France dans les années 50-60, c'était vivre avec une communauté quand même. Hein,
bien sûr.
Mais ce sera plus comme ça. Et c'est pas que dommage. Et où donc la question, c'est déjà, est-ce que, indépendamment du fait que ce soit le même que le mien, est-ce que vous avez la capacité, vous, personnellement, ou vous en tant qu'entreprise, ou vous en tant que collectif, à vous projeter et à vous raconter ce que pourrait devenir le monde, ou votre vie, demain ? Donc, est-ce que vous avez une capacité à trouver des récits, ou à les écrire, ou à y participer, ou à interagir avec, comme un bon bouquin qui a autant de lecteurs que qui existe... Il y a autant de versions que de lecteurs, parce que c'est le lecteur qui fait largement, qui fait en partie, en tout cas, le livre ou le récit. Et donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de l'interaction de chacune et chacun avec un ou des récits qui aident à se figurer que les choses pourraient être différentes. C'est le point de départ sans lequel on ne peut pas bouger. Le fait que ce soit les mêmes n'a aucune importance, à mon avis.
Mais est-ce que vraiment tout le monde peut se projeter dans un avenir et l'imaginer ? Enfin, j'ai l'impression que ça peut prendre des compétences, des qualités. Les gens, ils n'ont pas forcément le temps d'y réfléchir, en réalité.
En fait, on a tous un imaginaire.
Bien sûr.
On peut être tout à fait déshabitué de s'en servir, parce qu'on nous dit que ça sert à rien, parce qu'on dit quand même que là, maintenant, ce serait le moment d'être sérieux, ou parce qu'on nous a dit qu'on était nul, ou parce que, effectivement, le présent est lourd et qu'on a un problème de fierté vis-à-vis de soi, etc. Mais il n'empêche qu'il a été construit à un moment, et que c'est un truc avec lequel on existe de toute façon. Donc, on a quelque chose qui nous dit ce qu'on est, ce qui est proche de nous, à quoi on appartient, les symboles qu'on reconnaît, etc. C'est là. Et donc, la première chose, dans les pratiques, dans les choses qu'on essaye de faire quand on travaille sur... Là, on a lancé des projets sur les futurs de mobilité, de l'entreprise, d'autres choses. La première des choses qu'on essaye de faire avec les gens avec lesquels on travaille, c'est de les reconnecter à leur imaginaire. C'est de leur dire, vous choisissez un truc que vous avez vu autour de vous, qui vient des arts, de la fiction, du jeu vidéo, de ce que vous voulez. Il n'y a pas de grande culture, de petite culture, etc. Vous venez avec quelque chose... qui, pour vous, parle du futur, du truc dont on va parler. Et vous l'amenez, vous le partagez, on a créé un outil pour le faire, on a créé des méthodes en ligne pour le faire, c'est pour ça que c'était une année finalement assez marrante. Et en faisant ça, d'une part, on prend le pouls, quelque part, de ce qui se dit, ce qui se pense un petit peu là-dessus. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, les gens, du coup, retrouvaient un petit bout de connexion avec, justement ça, avec ce qui existe en deçà de leur conscience, de leur inquiétude ou de leur hyper-professionnalisme dans lequel toute forme de subjectivité a été évacuée pour dire non, voilà, c'est les indicateurs, c'est la performance qui compte. On ne fait pas d'idéologie, on ne fait pas de machin. Mais évidemment, il y a toujours... pourquoi est-ce qu'une entreprise a décidé de faire telle chose plutôt que telle autre? Pourquoi est-ce que vous avez décidé, même si vous n'avez pas que décidé, parce qu'on peut avoir des contraintes, mais de faire telles études ou tel métier plutôt que tel autre? Pourquoi est-ce que vous acceptez ça et pas ça? Il y a plein de raisons. Et donc, est-ce qu'on peut retrouver un petit peu le lien avec ça. Ça, c'est la première chose qu'on voit. La deuxième, c'est que c'est incroyable comment le fait de parler de ça plutôt que « je suis ça et je pense ça » crée des groupes à partir de gens qui ne se sont jamais vus en 5 minutes. Parce que c'est pas seulement « moi, je suis quelque chose », je suis quelque chose, mais je dis ce que je suis parce que je partage avec un groupe dans lequel les autres vont pouvoir infuser un autre sens en disant « Mais moi, tu viens de partager tel trailer de série. Moi, je l'ai vu, cette série, j'ai pas du tout lu la même chose que toi. »
Ouais.
Ok. Là, on commence à avoir des choses intéressantes à dire. Et point intéressant, le fait qu'on soit pas d'accord sur le sens de la série est une chose qui va rendre la discussion intéressante. Alors que quand on n'est pas sur l'imaginaire, quand on n'est pas sur le futur, qui est une des constructions imaginaires, quand on va être en désaccord, on va devoir être en désaccord, par exemple, sur notre identité. Là, on peut se tuer. C'est plutôt ce qu'on a tendance à faire ces temps-ci. Se tuer, en tout cas, ne pas pouvoir se parler. Quand on n'a pas de projection possible, le désaccord devient quelque chose de fondamental, d'identitaire. Quand on est autour d'une projection, c'est chouette d'être en désaccord. C'est incroyable que tu n'aies pas pu voir ça dans cette série. Et bien justement, c'est pour ça qu'on va adorer cette conversation. Donc, il y a quelque chose autour de ça, toujours autour de cette idée de dire, donc plus on est en interaction avec des imaginaires qui parlent du futur au sens « les choses pourraient être différentes », plus naît cette idée que, en effet, les choses pourraient être différentes et qu'en plus, ça peut être excitant de travailler à ce qu'elles soient différentes. Le fait qu'elles ressemblent exactement à ce qu'on a étant, à nouveau, secondaire par rapport au fait qu'on puisse agir et qu'on puisse en discuter avec d'autres et qu'on puisse faire communauté autour de ça.
Mais pourtant, ce qu'on voit dans les médias, mais aussi ce que font les réseaux sociaux, c'est opposer des points de vue. Beaucoup, on est vraiment dans des visions très binaires. Les médias, ils vont chercher du tweet, du retweet en tout cas. Et du coup, on se retrouve avec deux experts, entre guillemets, d'un bord et de l'autre, qui se chamaillent, pour pas dire autre chose. Et au final, ça fait pas avancer vraiment le schmilblick. Et pourtant, c'est vraiment la tendance qu'on voit à travers les bulles de filtres dont parlait l'hyperiseur.
Oui, bien sûr. Pour moi, il y a peut-être un peu deux phénomènes. Il y a un phénomène qui est vraiment celui de... cette tendance à dire on fait pas d'idéologie, on résout des problèmes. Moi, j'enseigne un petit peu à Sciences Po sur la question des technologies émergentes. Et une des choses que j'essaye d'aider mes étudiants et étudiantes à faire, c'est à se débarrasser de l'idée que la technologie sert à résoudre des problèmes. Je leur dis, dès que vous êtes sortis de ça de la tête, le monde devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus de choses deviennent explicables. Mais on est conditionné là-dessus. Et par exemple, un homme ou une femme politique, aujourd'hui, ça ne doit pas avoir des grandes perspectives. Normalement, ça doit s'occuper des problèmes concrets des gens et les résoudre. Et évidemment, c'est absurde, non pas parce qu'il ne faudrait pas résoudre les problèmes concrets des gens, mais parce que le problème lui-même est une construction. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi c'est un problème? Pourquoi ce problème-là est important et pas les autres? Et donc, dès que vous êtes en train de faire ça, en fait, vous êtes dans une idéologie, mais qui ne se reconnaît pas, puisque c'est notre réalité quotidienne. C'est ce qu'on appelle l'idéologie dominante, qui donc n'en est pas une, puisqu'elle n'a pas besoin de s'expliciter. Toute autre chose nécessite à un moment de dire « Moi, je veux travailler pour un monde dans lequel ceci et ceci seraient différentes. » Et on va nous dire « Oui, mais alors ça, c'est de l'idéologie. Il faut résoudre les problèmes des gens. » Donc, il faut déjà se débarrasser de ça, mais aujourd'hui, ça a été intériorisé. Ça a été très efficacement intériorisé. Donc, effectivement, on va se dire, les gens perdent du temps à raconter des trucs alors qu'il faut résoudre le problème de ça. Et évidemment, à résoudre des problèmes, on n'en résout jamais aucun, puisque tout ça est systémique. Mais on a structuré hein, les objectifs du développement durable. C'est une transformation en problèmes discrets, bien séparés les uns des autres. Ce n'est pas que mauvais, hein, mais c'est un rêve d'ingénieur. C'est OK, alors on a 17 objectifs de développement durable et 200, je ne sais plus combien, sous-objectifs. Donc je vais faire de la technique, je vais en supprimer un. Il y en aura 200 moins un. Et puis quand on les aura tous supprimés, on aura plus de problèmes. Évidemment, ce raisonnement par l'absurde nous montre que ça ne marche pas.
Bien sûr.
Donc ça, c'est cette technocratisation-là, qui est une espèce de truc à faire disparaître justement les imaginaires, ça, c'est vraiment quelque chose contre quoi il faut se battre, et qui est en fait une manière de masquer le fait qu'il y a un imaginaire, qui peut être différent de pays en pays, mais qu'il y a un imaginaire dominant qui a très bien réussi à se déguiser en la réalité objective face à laquelle on ne serait que des rêveurs si on devait travailler. Donc c'est sans doute la première raison pour laquelle les choses se passent comme ça, et puis la deuxième raison pour laquelle à nouveau les choses s'opposent de manière aussi violente, c'est justement qu'il n'y a plus de perspective. Que si on ne considère pas qu'on pourrait vouloir que les choses soient différentes, alors à ce moment-là, on ne peut que opposer, comme dans ces espèces de débats totalement absurdes d'aujourd'hui, sur à savoir si les profs de fac qui travaillent sur la différence et la pensée décoloniale sont des islamo-gauchistes, ou si, etc. C'est des débats de gens qui n'ont aucune capacité à se projeter sur quoi que ce soit. Et donc, il faut qu'ils trouvent des ennemis qu'ils fabriquent artificiellement des identités. Moi, je suis un universaliste et toi, tu es un relativiste ou réciproquement. Des cases, des passés fantasmés, des identités fantasmées, des choses qui n'ont jamais été, des choses qui n'ont jamais eu. C'est variable. Parce qu'il n'y a plus cette idée qu'on serait là pour essayer de se projeter un peu, de construire, de discuter d'envie et pas d'absolu. Et dès qu'on discute d'absolu, la seule vraie réponse, c'est de se bagarrer, c'est de se battre. Et c'est satisfaisant.
On le fait beaucoup. Hein.
Voilà, on peut adorer avoir raison sans avancer sur quoi que ce soit. C'est très, très satisfaisant pour l'esprit.
Mais au moins pour l'ego.
Vous avez raison, je suis d'accord.
Mais pour l'ego, ça marche pas mal d'avoir raison. Mais alors du coup, j'ai l'impression que vous répondez pas précisément à la question de... du coup, c'est quoi les imaginaires vers lesquels on peut se projeter dans un monde où, admettons, on se dit c'est pas le capitalisme, c'est pas le communisme, parce que le communisme, il est extrêmement productiviste. Sans doute que, alors je sais pas, mais c'est un imaginaire aussi, l'intelligence artificielle, la entre guillemets robotisation du monde va supprimer plein d'emplois. Mais en plus, on a tué la biodiversité, enfin, on a supprimé 70% de la biodiversité, il n'y a plus d'animaux à manger. On n'arrive plus vraiment à faire pousser de plantes sans engrais. On a, en même temps, en mettant des engrais, tué les sols. Et puis, il y a la montée des eaux. Et puis, il va y avoir des réfugiés climatiques. C'est quoi l'imaginaire ou les imaginaires dans lesquels je peux me projeter où je me dis « Ah ben ouais, je vais faire des enfants ».
Alors, la raison pour laquelle je ne vous réponds pas précisément, c'est parce que justement, je n'ai pas envie de vous dire « C'est celui-là ou celui-là ».
Oui, bien sûr, ça j'ai bien compris.
On est en train de lancer un projet, mais c'est comme ça que je vais vous répondre. On est en train de lancer un projet qui s'appelle Narratopia. et qui vise justement quelque part répondre à cet appel qu'on trouve partout, que vous venez de faire à juste titre, hein, mais qu'on trouve absolument partout,
évidemment,
qui est « on a besoin de nouveaux récits ». Et vous trouvez ça à la fin d'interview, de tribune, ouais,
de
machin.
Pablo Servigne, de tout le monde.
Chez Pablo Servigne, mais aussi au Forum économique mondial de Davos, ouais, qui a écrit la même chose. Et donc, à un moment, on s'est dit, il y a tellement cet appel, puis en général, il conclut les trucs en disant « on a besoin d'un nouveau imaginaire, salut ». Et donc, on s'est dit, bah, si on prenait cet appel au sérieux, et donc on disait, bah, on va essayer de voir comment y répondre, et deuxième intuition qu'on a en disant, et si on commençait par y répondre en disant, en fait, il y en a plein. Il y a plein de propositions, de récits, de futurs différents qui existent aujourd'hui dans le monde. Depuis, et dans un spectre très large, depuis effectivement la proposition qui peut s'appeler éco-moderniste, mm-hmm, dire, ben voilà, grâce à la technique, les micro-centrales nucléaires, la géo-ingénierie, les fermes hydroponiques, les villes hyper-compactes pour laisser la nature, voilà, ça c'est, et on va raconter ça, ou on va raconter des formes plus villageoises et pastorales de vie, où on va et on commence à peine à savoir, parce que ça commence à émerger, mais elle existe, comment une manière africaine de l'Ouest, mm-hmm, anglophone, raconterait ça. Il y a de la science-fiction nigériane, qui, en tout cas, par exemple, sur leur relation à l'étrange et à l'étranger, des choses assez différentes, mm-hmm, de la science-fiction occidentale. Et donc, Narratopia, la première idée, c'est de se dire, bah, allons chercher les centaines de récits existants, pas seulement d'ailleurs de science-fiction, hein, je vous ai pris ces exemples-là, mais ça inclut des utopies, voilà, Afrotopia de Felwinsar, c'est une proposition d'une manière de voir le futur, issue de l'histoire, y compris l'histoire longue de l'Afrique subsaharienne, qui est absolument passionnante, qui fait partie de ces récits de futur, etc. Et en faisant ça, on s'est dit, mais quels sont les récits qui seraient, qu'on prendrait et qu'on prendrait pas dans un truc comme ça? On a dit, bon, c'est des récits de monde désirable, mais désirable, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un moment où le fait que moi, je désire pas la même chose que vous, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'il y a un moment où quand même, là, non, par exemple.
La suppression des juifs, ou j'en sais rien, on pourrait dire, voilà, non, mais il y a plein d'imaginaires. Hein,
c'est ça, ou oui, ce serait bien si, effectivement, on se débrouillait pour qu'il reste 10% de l'humanité, parce que là, on aurait par de exemple. La place, ou des trucs comme ça. Bon. Et on s'est dit, en fait, on a commencé à définir quelques critères, mais on va sans doute, ça va devenir aussi un sujet, parce qu'on en a parlé un peu partout dans le monde, dans notre réseau mondial, qui est mondial mais qui est petit, c'est quelques centaines de personnes un peu partout, et les gens ont commencé à nous dire, oui, mais justement, il faut qu'on discute de ça. Mais on a des bouts de critères. On a un premier qui dit, c'est quand même un futur soutenable au sens où on n'est pas trop nombreux à être morts, quoi. C'est quand même mieux. C'est une espèce de borne inférieure, c'est-à-dire, de toute façon, c'est un futur dans lequel on existe. Sinon, c'est pas la peine d'en parler. Puis on s'est dit quand même, il y a justement une question d'accueil. C'est que, vraisemblablement, on vit déjà pas les mêmes présents. Donc il n'y a pas de raison qu'on vive les mêmes futurs. Et donc, il y a de la place pour plusieurs futurs. Et puis on s'est dit, il est ouvert, c'est-à-dire, une des caractéristiques d'un futur désirable, c'est qu'on peut continuer de s'engueuler sur les futurs désirables. C'est justement l'inverse du futur unique, lequel, à un moment, miraculeusement, il faudrait qu'on soit tous d'accord pour aller tous dans le même sens, que tout soit mobilisé pour... Et même si c'est ce qui est nécessaire pour contrer le changement climatique, parce que le niveau de transformation nécessaire est absolument phénoménal, eh bien, il ne faut pas, et de toute façon, c'est pas qu'il faut pas, c'est qu'on ne pourra pas, il n'est même pas imaginable, pour le coup, de l'obtenir en tombant tous d'accord et en allant tous systématiquement tout le temps dans le même sens. Et si c'était le cas, vraisemblablement, on serait quelques-uns à se dire « Putain, c'était mieux quand même quand on réchauffait la planète. » Tellement ce monde est oppressif. Donc c'est autre chose qui doit se passer. Ça reste quelque chose... d'humains, donc de bordéliques, d'hivers, d'en création permanente. Donc, le récit du futur, c'est déjà le récit que vous, en tant que personne, êtes capable de formuler et êtes capable de discuter avec d'autres personnes en vous disant « mais ça serait mieux si ». Et c'est ceci qui sera libérateur plutôt qu'éventuellement le fond de ce récit-là, sachant que, par contre, c'est le fond du récit qui vous aura parlé, qui, moi, m'aura parlé différemment. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Peut-être l'autre chose, quand même, c'est que, quand on dit récit, nouveau récit, on parle souvent, on anticipe souvent l'idée que ce soit un récit politique qui dise, voilà, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Alors, on voit bien que ce type de récit en surplomb, très rationaliste, il marche très bien pour nous dire ce qui ne va pas. On n'a pas besoin... la fiction peut nous aider à percevoir ce que serait l'effondrement, mais malgré tout, au fond, une partie quand même considérable de l'opinion et de la population a pu être convaincue par des arguments rationnels que le changement climatique était une réalité, que c'était une réalité extraordinairement dangereuse, que l'humain en était, l'activité humaine en était la source. Et donc, globalement, c'est assez bien accepté. Or, on voit bien que ça ne suffit pas à faire que quoi que ce soit, que quoi que ce soit change. Et là, il faut que quelque chose d'autre intervienne qui est au-delà de la raison, qui est du côté des sens, du côté des émotions, du côté de la subjectivité. Donc, le récit, c'est pas seulement la liste des trucs à faire. Le récit, c'est quelque chose qui vous aide à vous projeter. C'est pour ça que moi, je parle de qu'on est là pour multiplier les futurs pensables. C'est que si on n'est pas capable de se figurer au sens de faire émerger l'image dans nos têtes, l'acte d'imaginer, un monde dans lequel un certain nombre de choses seraient fondamentalement différentes, et de se dire « mais je pourrais être dedans, et je pourrais m'imaginer dedans », si ceci n'existe pas, il n'y aura pas de changement non subi.
Alors en fait, je vais dire deux choses qui s'opposent, et en même temps, c'est ça qui est intéressant.
Comme je le fais aussi.
La première, c'est que bien sûr qu'on ne peut pas avoir des imaginaires identiques, parce qu'on a des éthiques différentes, déjà entre l'Asie, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, le continent africain, le continent australien, enfin l'Océanie. Il y a des imaginaires différents, donc nécessairement on va dans des endroits différents. Et puis on a aussi, et vous le disiez tout à l'heure, vous avez passé très rapidement qu'on vit pas le présent, on vit pas tous le même présent, parce que évidemment on n'a pas la même réalité. C'est-à-dire que il y a des milliards de personnes qui vivent de manière très sobre, mais il y a aussi un certain nombre de pays où il y a de l'énergie fossile. En Europe, en l'occurrence, il y en a très peu. Il y a du charbon en Pologne, mais enfin, globalement, il n'y a pas grand-chose. Donc déjà, on a des réalités qui sont différentes, donc nécessairement, on va y arriver de manière différente, enfin, par définition, en fait. Et en même temps, l'homme étant, avec un grand H, un animal social, ce qui fonctionne bien pour transformer une société, c'est quand même quand il y a une reproduction sociale. C'est-à-dire que d'un coup, on se dit, je ne sais pas, en fait... voyager en avion, c'est complètement has-been. Manger de la viande, c'est totalement has-been. Ou peu importe ce que c'est, mais en tout cas, une sorte d'imaginaire collectif dans lequel on va tous. Et parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que on se dit « Ah ouais, non, mais l'avion, c'est pas bien, admettons. Ou manger de la viande, c'est pas bien. Ou... l'avion, c'est plus facile. » Et puis, on voit sur Instagram son petit ami, sa petite pote qui est partie au Costa Rica, au Nicaragua, en Australie, voyager. On se dit « Bah merde, moi, je fais l'effort. » Et puis, en fait, ça sert à rien puisque, en fait, l'autre à côté, il le fait pas. Et en vrai, moi, j'y serais bien parti aussi au Costa Rica ou je ne sais où. Donc, il y a quand même besoin de ce collectif dans une certaine mesure, non? Alors, je dis vraiment les deux, mais...
Non, bien sûr, il y a besoin de collectif, mais il ne se décrète pas, ce collectif. Et je pense quand même qu'il émerge le jour où ça devient autre chose, où le comportement prescrit est collectivement valorisé, devient autre chose qu'un comportement d'autocontrainte. Dans lequel il prend un sens plus profond. Et puis peut-être dans lequel on a trouvé d'autres manières de satisfaire une aspiration de ce type-là. On termine avec la Fabrique des mobilités un travail sur justement les futurs des mobilités, avec toujours la même démarche dans laquelle on commence par collecter des fragments de futurs existants et dans lequel ensuite on demande, on met les gens avec le concours d'auteurs et d'autrices de littérature spéculative ou d'autres, en position d'écrire des fictions par eux-mêmes, dans lesquelles, et qu'on va essayer de rendre suffisamment fortes pour qu'il y ait dedans elles-mêmes des morceaux de contradictions. Évidemment, les questions écologiques sont très présentes, et pour autant, il n'y a pas que la question de moins bouger qui se présente. On peut commencer à imaginer aussi d'autres organisations du temps qui feraient que, par exemple, vous pourriez retrouver des formes dans lesquelles vous pourriez vous déplacer, comme le faisaient des gens qui avaient les moyens, hein, quand même, au XVIe, XVIIe siècle, vous déplacer pendant très longtemps, de manière très lente, mais où vous... L'une des choses qui crée l'avion, c'est que vous avez 2 semaines. Si vous voulez aller au Costa Rica, il faut que vous y arriviez en 8 heures pour pouvoir y passer vraiment 2 semaines. Si la question de prendre 3 mois posait problème à personne, les choses pourraient complètement changer de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, c'est un ensemble de de la vie. Donc, si c'est voilà, juste sur la valorisation d'un aspect, disons que c'est pas tellement ce sur quoi on travaille, c'est plus une question de com, on trouve ça dans les neurosciences, etc., comment on arrive à teinter quelque chose. Nous, on essaye de travailler sur cette question qui est qu'est-ce qui fait que j'arrive à me figurer autre chose et à me projeter dedans, et qu'est-ce qui fait que c'est de ça que je peux commencer à parler quand je parle de ce qui devrait changer avec d'autres personnes. Et je pense que c'est d'une nature un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il y a, notamment peut-être dans la culture française, mais sans doute pas seulement, mais il y a derrière cette question de nouveaux récits une idée assez présente qui est il faudrait quelques personnes intelligentes et sages écrivent les contours de ce nouveau récit et qu'ensuite, un certain nombre de spécialistes de la forme, des artistes, mettent en scène ce nouveau récit et ensuite on le donnera à consommer et le peuple va adhérer et va faire ce qu'on veut de lui. Et c'est plus comme ça et c'est quand même pas dommage. C'est aussi un signe du fait que les gens ont grandi, que il s'est passé quelque chose grâce à l'éducation, à l'irrespect, à toute une série de choses. Mais c'est plus comme ça. Donc de toute façon, ça ne marchera pas, ce programme-là. Si les gens ne sont pas co-auteurs de ça, si les gens ne sont pas... si ce n'est pas ce qu'a Amartya Sen appellerait pour moi, c'est mon interprétation de lui, une capacité... UNESCO vient de faire de la littératie du futur qui est à peu près la même chose, en fait, la même idée, une compétence essentielle du 21e siècle. Mais j'appelle ça une capacité au sens d'une capacité à personnellement imaginer quelque chose qu'on pourrait vouloir faire pour changer une partie de son destin ou d'un destin collectif, et en plus à se mettre en chemin pour faire en sorte que ça se passe. On ne peut jamais avoir la capacité d'être sûr que ça va marcher.
Non.
Mais déjà de se dire, ok, je me sens autorisé et capable à penser que les choses pourraient être différentes, à me penser comme acteur de ça. Et voilà ce que je vais commencer à faire pour le faire. Si les gens étaient dans cette position-là, tous ou presque, les choses changeraient beaucoup. Et je vous assure que l'esprit public ou l'espace public de la conversation changerait considérablement. Et c'est pas qu'une question de ressources matérielles, hein, on le sait bien, c'est une question de ressources matérielles et de perspectives. C'est-à-dire que les gens qui ont peu de ressources matérielles en France en ont beaucoup plus que des gens dans d'autres pays. Et c'est pas pour dire, alors du coup, de quoi vous vous plaignez. C'est une question relative, mais c'est surtout que on peut avoir des gens qui sont objectivement beaucoup plus pauvres et qui ont le sourire aux lèvres parce qu'ils ont cette capacité à se dire « je suis là, j'ai une agentivité sur ma vie, sur ma communauté, sur, etc. » Et donc, je peux imaginer encore, on est quand même dans des pays dans lesquels, depuis plusieurs années, les gens sondés considèrent que, enfin, sont convaincus que leurs enfants vivront plus mal qu'eux. C'est un retournement incroyable par rapport à... Enfin, séculaire, hein, c'est-à-dire que c'est... Ça n'arrivait pas. Ça, c'était, l'évidence, c'était que le progrès faisait que nos enfants vivraient mieux que nous. Et là, ce n'est plus le cas. Et dans d'autres pays, ça reste l'idée. Et même, ce qui peut poser problème, parce que du coup, ça peut, poser, ça peut créer des formes de développement non vertueux, etc. Mais n'empêche qu'il y a cet espoir et ce sentiment qu'on peut faire des choses. Qui peut-être manque dans un certain nombre de communautés en France, pour lesquels la situation est peut-être moins objectivement dramatique, ils n'ont peut-être pas faim tous les jours, etc., mais pour lesquels il y a le sentiment que, de toute façon, il n'y a rien qui puisse faire. Et ça, c'est horrible comme situation. Et forcément, on se ratatine. Et ou bien on enrage. Il faut bien que ça sorte. Et c'est de ça qu'on veut essayer de sortir. Il y a d'ailleurs un projet magnifique autour de ça qui est porté par un jeune designer qui s'appelle Makan Fofana, qui s'appelle La banlieue du Turfu, dans lequel justement lui-même aussi dit « mais j'en ai marre, il en vient, et j'en ai marre de, qu'on me dise tout le temps que quand on vient de banlieue, la seule chose qu'on puisse faire, c'est répondre aux problèmes de la banlieue ». Une banlieue, c'est juste un truc qui a des problèmes qui doivent être résolus. Ça peut pas rêver de futur. Bah si, il dit. Et même peut-être, un peu comme Felwyn Sarr le dit de l'Afrique, et même peut-être rêver de futur en se disant qu'on a des trucs à dire à la non-banlieue, ou pour Felwyn Sarr, au monde entier. Et c'est à ce moment-là que... Et je m'en fous de ce qu'il a à dire, du coup. Dès lors qu'il se met et il met les gens en position de le dire. Vous voyez, c'est comme ça qu'à mon avis on pourra construire. Parce qu'après, se mettre d'accord sur le fait que les choses ne vont pas bien d'un point de vue écologique, etc. Oui, de toute façon, voilà. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en plus on va le vivre, on commence à le vivre. Mais il faut se mettre d'accord sur le fait qu'on peut penser les choses que les choses pourraient être autrement. Et c'est ce sur quoi nous on travaille.
Super. Et alors du coup, ce podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
Je veux justement ouvrir la porte à d'autres histoires. À d'autres histoires et à d'autres histoires prenables, c'est-à-dire des histoires que les gens continuent ou font bifurquer, etc. Je veux fermer la porte au désespoir, je pense, au fond.
C'est plutôt chouette. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.